Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre libre antenne. Votre moment, chers amis, car vous le savez, durant ces deux heures, vous allez pouvoir nous appeler et peut-être échangerons-nous tout à l'heure. En tout cas, je l'espère fortement. Pour nous appeler, vous connaissez le chemin, 39 21 50 centimes d'euros la minute, 7 39 21 suivi du mot nuit. Écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Et puis, vous écrivez vos mails à Julia et à Florian, à libreantenne@europe1.fr et sur notre groupe Facebook Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne, où vous pouvez écrire vos messages aussi en privé. Et ces deux jeunes gens donc vous rappelleront dans les plus brefs délais. Nous avons une pensée particulière ce soir pour tous les salariés de Camailleux, à Roubaix, car... ainsi va la vie, ainsi va l'info. Vous avez entendu Raphaël annoncer cette liquidation judiciaire, mais derrière ces mots, il y a bien évidemment des salariés, des hommes, des femmes, mais il y a des enfants, des familles, et c'est toute une partie de la population de cette région de Roubaix qui, ce soir, est plongée dans le noir. On peut parler d'obscurité, en tout cas. Alors, on pense bien à eux, bien évidemment. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Mohamed au 3921. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Mohamed ?
Alors, je vous appelle très exactement du Tarn-et-Garonne, mais je réside dans l'Hérault.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 67 ans. Si D'accord. vous voulez me faire un cadeau, ben c'est pour samedi prochain.
Ah bah très bien. Bah bon anniversaire en avance, Mohamed.
Merci. De quoi donc, Florian m'a dit que vous souhaitiez que je vous fasse une petite synthèse brève de mon du parcours personnel de ma famille, du parcours dramatique de ma famille.
Écoutez, si Florian dit ça, c'est lui qui commande ici. Donc je vous écoute religieusement, mon cher Mohamed. Oh.
Voilà, donc je vous fais un petit point sur les harkis, deux points différents, donc un parcours qu'on me l'a demandé sur ma famille, un petit peu le mien, qui est aussi tragique que celui de toutes les familles harkis, et après une petite synthèse sur la situation générale des harkis. Mmh. Donc une histoire qui traite, qu'on le veuille ou non, de la plus grande trahison de l'histoire, parce qu'il n'y a aucun chef de gouvernement, encore moins de gouvernement, qui a désarmé et livré ses propres soldats à l'ennemi.
Là, vous parlez du général de Gaulle. Oui.
Voilà, absolument, du général de Gaulle. Et pour apporter la preuve, les deux télégrammes du 12 mai et du 16 mai 62 en sont des preuves indiscutables. Celui du 16 mai de Louis Jacques, il est encore pire que celui de Pierre Messmer du 12 mai, puisque et l'ordonne de ne pas divulguer l'information qui traite donc du désarmement et de l'abandon des harkis, et surtout de ne pas les rapatrier. Donc ils ordonnent tous les deux et donnent des ordres très précis aux autorités civiles et militaires en Algérie de ne pas rapatrier les harkis. Donc si vous voulez bien, je vais faire une brève synthèse sur le parcours de ma famille. Oui. Comme me l'a demandé Florian. Mm-hmm. Donc écoutez, je suis né en octobre 55, donc pendant la guerre. Et mon père est entré dans l'armée française pour ces raisons. Hein. Chaque harki est rentré dans l'armée française pour des raisons bien précises. En règle générale, les harkis, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Voilà, donc mon papa, il a fait la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Il a échappé à la guerre d'Indochine. Bah écoutez, en 58, mon père fait partie de cette masse immense d'harkis qui sont rentrés dans l'armée française. Il faut que je précise quand même que depuis le 1er novembre 50, 54, premier jour de la guerre d'Algérie jusqu'en 58, en été 58, l'armée française se faisait descendre comme des mouches dans des embuscades tendues par le FLN. Mmh. Donc De Gaulle a eu l'idée de faire d'intégrer des harkis en masse en 58, parce que là, on n'en parle pas, les historiens, tout ça, ne parlent pas de ça. C'est en 58 que les harkis ont été engagés en masse dans l'armée française pour pallier à la défaillance de l'armée française face à l'ennemi FLN, qui était, faut le reconnaître, c'était des soldats redoutables. Ils connaissaient le terrain par cœur, ils connaissaient le terrain comme leur poche, ils n'avaient pas besoin de cartes pour se déplacer, alors que nos pauvres petits soldats de métropole, même avec des cartes, ils se perdaient sur le terrain. Donc voilà, mon papa est rentré en 58, 58-62, il se fait désarmer comme tous les autres, et le 22 juillet 1962, au crépuscule de la journée, un groupe de 3 FLN interpelle mon père, qui était en train de discuter calmement avec un voisin mitoyen qui lui a perdu sa jambe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père me dit « Attends-moi là, je reviens tout de suite ». Je l'ai vu à peu près un mois après. Voilà, je l'ai revu un mois après. Le gouvernement FLN nous obligeait à aller voir nos pères faire des travaux forcés. Donc, votre humble interlocuteur a des images très précises de cette obligation. On était sur une petite colline et on regardait les harkis faire des travaux forcés. On avait reconnu notre papa.
Oui.
Et ils avaient tous un point commun. Ils avaient des lèvres, d'énormes lèvres blanches. Elles étaient blanches parce que le FLN, tous sans exception, aucune. Le FLN leur faisait enlever des figues de barbarie avec la bouche. Mmh. Si vous savez ce que c'est, les figues de barbarie, elles comportent des centaines d'épines tout autour, très rigides, très cassantes. Elles pénètrent très facilement dans la chair. Et vous ne pouvez pas les enlever. Vous ne pouvez pas les soigner. Et en tout cas, ils ne leur faisaient pas enlever les figues de barbarie avec la bouche pour les soigner après. Donc ils avaient tous d'énormes lèvres blanches, on les reconnaissait de loin. Donc cette image est restée dans ma tête, elle est toujours dans ma tête. Quand nous sommes arrivés en France, que je voyais les films sur l'esclavagisme, c'était ces images-là qui me revenaient quand je voyais mon papa avec d'autres des milieux de harkis faire des travaux forcés sur les routes de Kabylie. Hein, ils refaisaient les routes qui étaient défoncées par les engins blindés durant les 8 ans de guerre. C'est les harkis qui ont refait toutes les routes. Mmh. Et cette image-là, elle reste. La seule différence qu'il y a avec les films américains qui traitaient de l'esclavagisme, c'est les chaînes. Nos parents n'avaient pas les chaînes. Autrement, c'était exactement la même chose. On les voyait se faire tabasser à coups de crosse de fusil ou de gourdin pour ceux qui n'avaient pas de fusil. Voilà. On a vécu l'enfer pendant 6 ans. On a vécu avec la mort à nos côtés pendant 6 ans, jusqu'en 1968. Parce que nous avons réussi à nous évader en 1968. Nous avons échappé à 3 embuscades. Je pourrais bien vous raconter le détail de notre évasion, comment on a pu échapper aux 3 embuscades, mais je pense que vous êtes limité par le temps.
Oui, enfin, vous pouvez m'en raconter une au moins, si vous le désirez.
Ben, je vais vous la raconter. Alors, à partir de 1966, début 66, le gouvernement FLN donnait des permissions de 24 heures aux harkis qui étaient emprisonnés. Donc, je précise en passant que nos parents, ils ont été emprisonnés, faire des travaux forcés, sans jugement. Contrairement à ce que disent certains historiens hypocrites, les harkis n'ont jamais été jugés.
Vous parlez d'historiens algériens ou français, ou les deux ?
Les deux. Pour les historiens français qui sont pro-FLN, je fais allusion à Benjamin Stora, bien sûr qu'il ne dira jamais la vérité sur l'histoire des harkis.
Quelle est sa motivation de dire des mensonges, de votre point de vue ?
Ah ben parce que c'est tout simplement parce qu'il est, là, il est pro-algérien,
oui,
Stora, il est pro-FLN,
d'accord.
Donc on ne peut pas lui, c'est juste pas possible qu'il dise, d'ailleurs le rapport Stora, il le prouve, hein, le rapport 280 pages truffées de mensonges que nous avons attaqué d'ailleurs au Conseil d'État, sachez-le, nous l'avons attaqué avec un mémoire de 27 pages criant de vérité. Donc ça, les gens ne le disent pas. Nos parents, ils ont été emprisonnés sans jugement, ils ont été condamnés sans jugement, ils ont fait des dizaines des années, de nombreuses années de prison dans les geôles du FLN, travaux forcés. Il y a 150 000 harkis qui ont été tués au lendemain de la guerre d'Algérie, en l'espace de quelques mois. 150 000 harkis et leurs familles. C'est plus de morts que durant les 8 ans de guerre, des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est un fait indiscutable aujourd'hui, au vu de ces deux télégrammes du 12 et 16 mai 1962. Donc, 68 arrive, pas à grands pas malheureusement, on a souffert pendant 6 ans, on a vécu avec la mort à nos côtés durant 6 ans, les enfants, on a été déscolarisés, on a eu droit au défilé des femmes FLN, défilé des expéditions punitives où les groupes de femmes, de jeunes étudiants et tout se partageaient en plusieurs groupes. Un groupe qui s'attaquait à la mère de famille. Un autre, d'autres groupes qui occupaient les filles aînées. Je parle bien des filles parce que les garçons étaient dehors, on travaillait. Moi, j'étais déscolarisé, mais j'ai fait berger pour aider ma maman. Et nous avons eu droit à cette expédition punitive, où un groupe de familles avait s'attaqué à ma maman, un autre groupe s'est occupé de ma sœur, et un autre groupe et d'autres groupes tuaient les bébés. Donc j'ai un petit frère qui s'appelle Rabat, qui a échappé à la mort grâce à ma grand-mère maternelle, qui s'est recroquevillée sur lui, et elle ne l'a pas tué. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a de très nombreux enfants, des garçons, essentiellement des garçons, qui se faisaient tuer, qui se sont fait tuer durant ces défilés de femmes FLN. FLN et FLN de dernière heure, c'était les plus voraces.
Qu'appelez-vous donc, les FLN de dernière heure, Mohamed ?
Les FLN de dernière heure, ce sont ceux qui n'ont rien fait, qui ne se sont pas battus pour leur pays et qui sont sortis de l'ombre au lendemain de la guerre et qui, pour légitimer leur position de faux FLN, parce qu'ils ne se sont jamais battus pour la libération de l'Algérie, et bien plus ils massacraient les harkis, plus ils se donnaient cette légitimité, cette position de FLN.
Oui,
c'est
d'accord.
Ça qu'on appelle les FLN de dernière heure, ou d'après du lendemain du 19 mars, etc. Ceux-là, ils étaient les plus féroces. Ils en ont massacré, les gens. Donc, voilà. Et 68 donc arrive, contrairement à d'autres. J'étais à partir de 1966, c'est-à-dire que l'histoire est longue.
Oui,
à partir de 66.
On a à peu près encore 10-12 minutes, Mohamed, donc n'oubliez pas.
Alors, on devrait entrer dans le cadre.
Oui,
bon.
S'il vous plaît.
Donc, début 66, le gouvernement FLN donnait des permissions de 24 heures aux harkis.
Oui.
Et pour rentrer chez eux. Donc, il y avait des harkis qui ont tenté de s'évader en famille dès la première permission. Et ça, il n'y a aucun historien qui en parle. Et c'est une réalité, c'est une vérité historique. Et ces familles-là se faisaient tendre des embuscades en race campagnée, ils se faisaient égorger et jeter dans les fossés en race campagne. Et le conducteur n'était pas harki. Mais c'était la sanction qu'il méritait d'avoir tenté de faire évader une famille harkie. Alors, je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre aujourd'hui, mais il y a une certitude. C'est que dans mon village et dans les villages voisins, il y a eu des familles harkies qui ont été à qui on a tendu des embuscades et qui sont tombées dans ces embuscades-là. Je parle bien des années à partir de 1966, hein, quand on se remette bien dans les dates. Hein. Donc, c'est bien après la guerre. Hein. Et que ces familles-là, on les a égorgées, toutes, et on les jetait dans des fossés. Ma famille a échappé à trois embuscades de ce genre. Pourquoi ? Je vais vous donner l'explication, vu qu'on a un petit peu de temps. On a échappé à ces trois embuscades parce que, quand mon père il a pris sa première permission, nous ne nous sommes pas empressés à partir tout de suite. Autrement, on aurait fini pareil que les autres. On a concocté un plan d'évasion qu'on allait mettre en place à la deuxième permission. Et c'est ce qu'on a fait un mois après. Parce qu'un mois après, mon papa, c'était fin février, après une deuxième permission, dès qu'il est arrivé, on l'a accompagné, je l'ai accompagné avec ma maman, au consulat de France à Tizi Ouzou. Donc c'est en Kabylie. Et là, le consul nous a reçus. Il était mort de trouille. Le consul, il était mort de trouille. Il avait peur pour nos vies. Il voulait qu'on parte tout de suite. Seulement, j'avais 4 frères et sœurs. On était 5 frères et sœurs. J'avais 4 frères et sœurs. Il était hors de question de partir sans eux. Donc, mon père, il est parti. Il a pris un taxi à l'ambassade de France à Alger. Et nous, on est reparti au village. Le consul nous a donné 19 francs. On ne peut pas oublier non plus. Je me souviens comme si c'était hier, bien que j'avais qu'une douzaine d'années. 12 ans et demi, en 68. Il nous a donné 19 francs.
Oui.
Mon papa a pris 10 francs et nous, on a pris 9 francs. Mon papa a pris le taxi pour aller à l'ambassade de France à Alger. Et le chauffeur de taxi s'arrêtait auprès de tous les policiers qui avaient sur la route pour lui demander, pour leur demander la route pour aller à l'ambassade. Donc, indiscutablement, vous aurez compris.
Il faisait exprès faire arrêter votre père.
Voilà. Donc, et je ne jette pas la pierre, voyez-vous. J'essaie de faire la part des choses parce qu'il y avait des gens bien malgré tout. À un moment, le taxi, il est tombé sur un policier qui avait très bien compris. Il a compris aussi bien que les précédents. Il s'est tourné vers mon père qui était assis à l'arrière et il lui a souhaité bonne route. Il lui a dit « Bonne route, l'ancien. » C'est-à-dire « Vas-y, tu peux partir.
Mm-hmm. »
En France. Il avait très bien compris que c'était pour s'évader en France. Et là, le taxi n'a plus cherché à comprendre. Il a amené mon père directement à l'ambassade de France. Et nous, quand on est rentré, on a trouvé la gendarmerie à la maison. Donc, on a été surveillés comme du lait sur le feu. Et... parce que mon père n'était pas rentré en prison, donc il a été déclaré déserteur. Les gendarmes sont venus à la maison pour essayer de me faire parler. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, juste une petite anecdote qui mérite d'être citée. Ma toute dernière sœur avait 5 ans. Les voisins, nos voisins qui portaient le même nom que nous, hein, que ma famille, Djafour, ont pris ma petite sœur chez eux. Ils lui ont rempli les deux mains pleines de bonbons, elle lui a dit, donc c'était deux femmes, deux cousines, ils lui ont dit, si tu nous dis où est ton père, tous ces bonbons sont à toi. Nous, à mourir de faim, on n'avait pas de nourriture. Les bonbons étaient une denrée rare, même pour les plus riches. Là, ma petite sœur, elle savait très bien, à 5 ans, elle savait très bien où était mon père. Tous les membres de la famille étaient au courant de la situation réelle que nous vivions. Elle leur a dit « Non, je ne veux pas de vos bonbons, je ne sais pas où est mon père. » Donc ça a duré à peu près 2 semaines. Cette situation a duré 2 semaines où on était surveillés. On était à la limite de se faire déménager par le gouvernement, parce que c'est ce qu'il faisait. C'est ce que le gouvernement faisait, déménager les familles de harkis dont le père s'était sauvé en France. Et on ne remettait jamais les mains sur... On ne savait plus, personne ne savait où avait déménagé ces familles. Donc il y a beaucoup de familles qui sont restées en Algérie à cause de ça. Nous, on était à la limite. Il se trouve que le mari de ma tante, la sœur de ma maman, a décidé de nous rapatrier, de nous faire sortir de là. Donc, il a dit à ma tante d'aller voir sa sœur pour lui dire qu'il nous amène jusqu'en France si c'est nécessaire. Donc, il a commandé un taxi. Enfin, c'était pas un taxi, c'était des voitures, des gens qui faisaient du transport. Il lui a dit, eh ben, tu nous amènes à Alger, quoi. Et l'autre, il savait ce qui nous attendait. Si on se faisait attraper, il savait ce qui l'attendait lui aussi. Parce qu'il se serait fait égorger lui aussi. Je me souviens de la couleur de son visage encore aujourd'hui, parce que j'étais là. On était au centre du village, on était rassemblés au centre du village, il y avait tout le village qui était autour de nous, avec l'intention de nous empêcher de partir. Et ce bonhomme, il leur a dit, le premier qui touche un de leurs cheveux, je le tue. Là, je vous dis, je vous raconte la situation telle que je m'en souviens, mais ça s'est passé comme ça. On était là, rassemblés là, pendant à peu près une petite heure. Parce que ce jour-là, étant déscolarisé, moi je faisais berger pour aider ma maman. Les enfants de harkis étaient déscolarisés en France. C'est un sujet qui mérite d'être très largement étayé, ce sujet, la scolarité, autant en France qu'en Algérie. Donc je faisais berger ce jour-là, c'était pas moi, mes deux petits frères qui ont fait berger. Fort heureusement, ils ne sont pas partis loin. Ma maman, elle a mis quoi, 10 minutes pour les récupérer. On a pris donc la voiture, on est parti. Le chauffeur nous a ramenés jusqu'au consulat. À côté du consulat de Tizouzou, il y a un grand parking. À côté, à l'époque, il y avait l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants. Ce grand parking servait pour les taxis, pour tout le monde. Il nous dépose là. Et il a dit à notre bienfaiteur qu'il ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il avait une course urgente. Mais c'est juste parce qu'il savait qu'il allait mourir lui aussi. Et on est parti de là. De Tizi Ouzou à Alger, on a changé de voiture. Entre-temps, une autre tante, la sœur de mon papa, qui était FLN, nous a vendus, nous a dénoncés à la gendarmerie, et c'est de Tizi Ouzou à Alger que nous ont tendu 3 embuscades, dans lesquelles on devait se faire égorger, dans la première. Et on l'a échappé parce que ce n'était plus le même numéro d'immatriculation, c'était le numéro d'immatriculation de la voiture qui était visé. Voilà comment on a échappé à ces 3 embuscades. Donc en Algérie, mon cher monsieur, les enfants de harkis étaient déscolarisés parce que c'était des enfants de traîtres. Celui qui vous dit le contraire aujourd'hui, demande-lui d'apporter des preuves de sa scolarité. Oh, il y a peut-être quelques-uns qui sont passés dans les mailles du filet, mais pas beaucoup. C'était un ordre du gouvernement, déscolariser les enfants de harkis. Parallèlement, en France, De Gaulle, il a fait la même chose, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la synthèse générale sur les harkis. Nous sommes arrivés en France le 5 mars 1968 avec mon papa et ma maman. On est partis en bateau. On a vomi ce qu'on avait mangé 10 ans en arrière. On n'avait pas mangé grand-chose, donc on n'a pas vomi grand-chose. On a vomi nos tripes, tout ce que vous voulez, dans les cales du bateau. Et on est arrivé au château de Lascour, dans le Gard, un centre de transition. Le château de Lascour, c'est un centre où on étudie l'état de santé du père, du chef de famille, pour savoir si on envoie la famille dans un camp ou un hameau de forestage, pour que le papa puisse travailler dans la forêt, dans les bois, comme tous les harkis. Mon papa, il a été fracassé, démoli de la tête aux pieds, durant les 6 ans de tôle, de geôl qu'il a fait dans les geôles du FLN, donc il était fracassé. Et il nous a envoyé le 27 février 1969 au camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, qu'on appelait le Mouroir. Parce qu'on envoyait là-bas que ceux qui étaient fracassés physiquement, psychologiquement, ou les deux. Ben, mon papa, c'était les deux. Au camp de Bias, ben, écoutez, on est resté jusqu'en 1976. On a connu donc la révolte des camps, etc. Moi, j'étais militaire lors de la révolte des camps. Moi, j'étais à Paris. Je travaillais à Paris. J'ai essayé de m'évader, d'échapper à cet enfer et d'essayer de trouver un boulot ailleurs. C'était très difficile. Et donc, en termes de scolarité, donc, on a été classé là-bas. L'école, c'était au camp de Bias. Et c'est là que je peux parler de l'école en France. L'école en France, autant en France qu'en Algérie, elle a été le niveau de l'instruction dispensée aux enfants de harkis était volontairement, délibérément minimisé au maximum. Et de toute façon, on n'avait pas beaucoup de chances de s'en sortir, puisque votre humble interlocuteur, du fait de ce parcours chaotique, n'a été scolarisé que durant 2 seules années de toute son existence. Vous me demandez des récits personnels, ben je vous donne quelques récits personnels. Voilà. Je n'étais à l'école que 2 ans, ma sœur aînée n'a jamais été scolarisée. Document à l'appui, quand elle a pris sa retraite, elle a voulu intégrer une association qui dispensait des cours d'alphabétisation gratuitement. Ils lui ont dit, non madame, vous êtes française, on ne peut pas vous accepter parce que vous êtes d'une nationalité française. Document à l'appui, si vous voulez, je vous envoie le document comme preuve que la région a refusé de prendre en charge de l'aider.
Je vous crois sur parole.
Voilà, donc nous avons vécu tout ça, cher monsieur. En France, l'enferme. La seule chose qui a changé, c'est qu'on n'était pas battu. En Algérie, on était battu quasi quotidiennement. On est tombé dans le coma combien de fois, je ne sais pas combien de fois. Ben, en France, on a été parqué dans des camps avec aucune chance d'intégration. Aucune chance d'intégration dans la population française. Je ne jette pas la pierre sur l'immigration, parce que l'immigration a subi elle aussi. Mais ils avaient plus de chance que nous. Alors que nos parents se sont battus pour la France durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie. Et on nous a parqués comme du bétail, comme des animaux, comme des moins que rien. On nous a traités de tout, on nous a enlevés. Je suis tombé sur une fiche familiale, une fiche d'allocation familiale, où mes parents touchaient 360 francs. Et j'ai dit à ma maman, vous touchez 360 francs. Elle m'a dit non, mon fils. Monsieur Boucher, le chef de camp, ne me donnait que 150 francs. Donc ma maman travaillait au camp de Bias. Elle faisait ses journées de 5h à 13h à l'usine. Et de 14h jusqu'à 22h en été, elle travaillait chez les paysans. Mon papa était profondément tombé dans l'alcoolisme, comme tous les autres. Ils étaient ravagés du cerveau, donc ils ont trouvé ça comme échappatoire et ils sont tombés dans l'alcoolisme. Et ma maman travaillait jusqu'à 18 heures par jour pour nous en sortir, pour nous acheter à peu près ce qu'il faut à manger, à nous habiller, etc. Notre argent, les prestations sociales étaient détournées. Je dis le nom du chef du camp, c'était M. Boucher. Donc, M. Boucher, il a sa conscience. Eh bien, nous avons souffert durant toutes ces années. 60 ans après, mon cher monsieur, 60 ans après. Donc, je reviens sur la scolarité en France. Il faut savoir aussi qu'à partir de 62, dès que les enfants de Harki arrivaient en France, et ceux qui sont nés ici aussi, ils étaient délibérément mis au fond des classes. Les instituteurs ne s'en occupaient pas. Et tout ça, monsieur, c'était calculé par le gouvernement de l'époque. C'était calculé, le calcul c'était quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que la meilleure arme qu'il puisse avoir dans notre société, c'est un stylo. C'est l'instruction. Donc le gouvernement de De Gaulle, à l'époque, il avait prémédité que nous devions être des ânes jusqu'à la fin de notre jour, de façon à ce qu'une fois qu'on a atteint l'âge adulte, nous n'ayons pas l'instruction suffisante pour défendre nos droits. Erreur. Il a commis une erreur quand même. Il a fait des calculs qui n'ont pas tous abouti, et ils ont abouti pour la plupart, mais pas tous. Je ne parle que de la problématique Harki. Parce que je ne parle pas d'autre chose sur le plan politique, hein, parce que je lui tire mon chapeau pour tout ce qui est pour beaucoup d'autres choses, mais sur la problématique Harki, non, De Gaulle, c'est le plus grand traître de tous les temps. Et il a fait de sorte à ce que même nous, enfants de Harki, nous ne puissions pas nous en sortir une fois adultes. Bah, il a fait quelques erreurs dans la mesure où il y a quelques exceptions.
On arrive un peu à la fin, malheureusement. Mohamed, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir, comme d'habitude. Ce que j'aimerais, moi, savoir, on a bien évidemment compris la trahison dont les Harkis ont été victimes. Mais au-delà de cette trahison, il y a eu le mépris, une autre trahison. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir comment vos enfants vivent cela, parce que vous avez dû leur raconter comment, aujourd'hui, ce que vous en avez fait de tout ça, en fait.
On est sur la même longueur d'onde, mon cher ami, mon cher monsieur. J'en suis ravi parce que c'était ma conclusion, justement. 60 ans après. 60 ans après. Qu'est-ce qui se passe 60 ans après? Nous avons toujours affaire à des gouvernements successifs jusqu'au gouvernement actuel qui ont suivi cette trace de trahison à l'encontre des Harkis. Il n'y a jamais eu aucun gouvernement qui a eu le courage de traiter définitivement cette trahison unique dans l'histoire que les Harkis ont subie et qui est le désarmement et l'abandon de ces soldats français aux mains de l'ennemi. Aucun gouvernement n'a pris son courage à deux mains pour traiter cette affaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 60 ans après, même certains pourris de politica, excusez-moi de parler parce que là, je commence, bon, c'est bon, je suis parti, c'est des pourris, les politicards. Moi, j'en ai mis devant les tribunaux. Je les ai traînés devant les tribunaux, les politicards, pour des raisons purement archiques. Aujourd'hui, nous sommes détestés. Nous sommes méprisés. En gêne, nous sommes une gêne, comme me disent beaucoup de personnalités, les harkis, c'est une tache sur le drapeau français. Et tant que ce problème n'est pas traité, la tache, elle y sera toujours. Et la tache, je crois qu'elle est indélébile. Et elle le restera indélébile. Parce que la situation des harkis, le problème harki, ne sera pas traité à sa juste hauteur, à sa juste valeur. Jamais. Vous voulez parler de la loi du 23 février 2022 ? Je l'ai attaqué, monsieur. Pourquoi il y a eu, d'ailleurs, je peux vous toucher un mot très rapidement, il y a eu la loi du 23 février 2022 parce que précédemment, 4 ans avant, il y a eu le décret numéro 2018 du 1320 du 28 décembre 2018 que j'ai attaqué aussi au Conseil d'État. Nous avons attaqué aussi le rapport Stora. Le décret de 2018, nous l'avons fait modifier, nous avons fait modifier son paragraphe traitant de la réparation, parce qu'initialement c'était un décret de réparation des préjudices subis par la deuxième génération harki. Et nous avons obtenu le changement de ce paragraphe qui s'est transformé en paragraphe d'aide sociale, d'aide financière, destinée aux enfants de harki les plus démunis. La phrase de Madame Dariussec dit « Le décret numéro 2018-1320 du 28 décembre 2018 n'est en aucun cas un décret de réparation des préjudices subis par les enfants de harki de la deuxième génération, mais un décret d'aide financière destinée aux plus démunis. Point. Ceux-là même qui en bénéficient peuvent entreprendre une action en justice pour demander réparation. C'est trop facile de le dire. Quand on sait ce que ça coûte, quand on connaît la technicité juridique, etc., etc. Enfin, nous, on y est dedans quand même. Mais c'est très compliqué. Donc, elle sait qu'elle ne prend pas trop de risques. Donc, nous avons fait modifier ce décret et ils ont créé la loi du 23 février 2022, qui est encore plus honteuse. Elle est encore plus truffée d'anomalies, d'injustices. Et c'est la raison pour laquelle on l'attaque aussi. Parce qu'il y a des harkis qui, outre le fait que le montant de l'indemnisation qui relève de 6 000 euros par personne pour tout un parcours de vie gâché, raté, déchiré, massacré, il donne 6 000 euros. C'est une honte, c'est une insulte. Il n'y a pas pire insulte que ça 60 ans après, mais c'est juste pas possible. C'est une déclaration de guerre.
Oui, c'est fou.
On va marquer
une pause, Mohamed, si vous voulez bien. Et juste après, on va retrouver Gilles qui nous a appelé et qui est un Français qui a fait la guerre et qui va nous parler puisqu'il tient à témoigner ce soir. À tout de suite.
Si vous me permettez, juste une phrase, s'il vous plaît.
Allez-y, je vous en prie.
Juste une phrase. Donc, au cas où, tout à l'heure, on n'a pas le temps parce que ça, c'est très, très, très important que je vous dise ça. Aujourd'hui, monsieur, le mot harki est devenu synonyme de traître, à tel point qu'il y a des gens issus de l'immigration. Je ne mets pas toute l'immigration dans le même sac, puisque j'ai des amis avocats immigrés et issus de l'immigration algérienne et tout. Il y a des gens qui sont très, très bien. Mais aujourd'hui, nos élus utilisent le mot harki comme synonyme de traître. Les élus, nos élus républicains, nos politicards. Et l'immigration. Tout dernièrement, on vient d'obtenir une condamnation de 2 femmes d'origine immigrée, d'origine algérienne, qui nous ont traités de traîtres, de collabos sur les réseaux sociaux. Elles ont été condamnées en date du 25 janvier dernier. Et actuellement, il y en a un qui a eu le courage d'aller sur le site mémorial de Rivesaltes. Sur le site mémorial de Rivesaltes où il nous a insultés. Il y a 2 procédures contre lui.
Et il sera condamné à juste titre aussi, mon cher Mohamed. N'en doutez pas une seule seconde. On va faire une page de pub et puis on se retrouve tout de suite. Il est 23h.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h44. Mohamed, on va prendre en ligne Gilles, qui tient à témoigner ce soir. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Vous nous avez appelé Gilles pour commenter, en tout cas pour nous livrer votre témoignage par rapport à ce que vous avez entendu.
Oui, rappelez-moi son prénom s'il vous plaît.
Mohamed.
Mohamed, bon, bah d'abord, Mohamed, alors mon nom personnel, hein, parce que je ne peux pas engager la France, en mon nom personnel, je vous demande pardon pour ce que la France vous a fait à vous, vos parents et vos grands-parents et vos arrière-grands-parents. Parce que sans vos arrière-grands-parents, je ne serais pas là. Moi, c'est la honte de la France, on les a abandonnés, on les a mis dans des camps, ils n'ont du droit à rien. Le général de Gaulle, à l'époque, avait dit « on s'occupera d'eux », il ne s'en est pas occupé, et tous les présidents qui ont suivi ont dit la même chose et s'en sont jamais occupés. Alors, en mon nom, je vous dis à votre famille et à tous les harkis, je vous dis merci, parce que c'est un camp, bien sûr, c'est pas un camp de concentration, on ne tuait pas les gens, mais on les laissait presque mourir. Mmh. Est-ce que je me trompe, Mohamed ?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'irais même vous dire, Gilles, d'ailleurs, je vous remercie, mais vous n'êtes pas responsable, donc demandez pardon, c'est gentil, mais c'est pas
oui, mais je l'ai vécu, Mohamed.
Vous avez fait la guerre d'Algérie, Gilles, hein, vous avez oublié de le préciser.
Je peux même vous dire, Gilles, que Abias.
D'abord, attendez, Mohamed. D'abord, c'était pas une guerre. Pour la France, c'était un maintien de l'ordre.
C'est ça. Jusqu'à ce que Chirac l'ait reconnu en 91, c'est ça.
Voilà. Je vous écoute maintenant.
Oui, pour revenir au fait que nous avons été jetés dans des camps, je peux même vous dire, Gilles, qu'il y avait des gaillards, je me souviens des grands bonhommes, des grands soldats, harkis, au camp de Bias, qui allaient réclamer leurs droits auprès du chef de camp, que je dis son nom, je le dirai toujours, M. Boucher. Eh ben, il appelait le service psychiatrique. Et mettait des camisoles à ces gens-là et les embarquait pendant 3, 4, 5, 6 mois. C'était des gaillards qui pouvaient se lever des sacs de... À l'époque, les sacs de ciment, c'était des sacs de 50 kilos. Ils se levaient deux sacs de 50 kilos chacun, un par dans chaque bras. Ils revenaient, ils revenaient comme des légumes. Oui, des zombies, c'était des zombies. Voilà, et ils en faisaient des légumes à coup de drogue, à coup de piqûres, à coup de... Je ne sais pas ce qu'on leur injectait à l'hôpital. Et 6 mois après, quand ils revenaient, ben, c'était des zombies. Ils ne bougeaient plus. Voilà comment ça se passait quand quelqu'un avait le malheur de réclamer ses droits. Un jour, aujourd'hui, vous voyez, on kidnappe des chefs de service, un peu de tout, on kidnappe un peu n'importe qui aujourd'hui. Les gens kidnappent n'importe qui. À l'époque, je me souviens, il y avait 5 harkis qui ont été voir ce monsieur Boucher, pour réclamer poliment leurs droits. Je crois qu'il s'agissait d'un problème de charbon. Et c'est lui qui les a kidnappés dans ses bureaux. Ils sont restés, je crois, 24 heures. Et après, il les a libérés le lendemain, 24 ou 48 heures, franchement, je ne sais plus. Et après, il y a 3 familles qui ont fait des trous dans le grillage parce que le camp de Bias était entouré de grillages et d'énormes sapinettes qui faisaient 15-20 mètres de haut sur 5 mètres de profondeur, et doublées de fils de fer barbulés avec un portail à l'entrée et un gardien qui était harki, on l'appelait Moustache, et il n'avait pas le droit de laisser entrer quiconque.
Oh mais Mohamed, il n'y avait pas qu'un gardien, il y avait des gardes tout le tour.
Oui, c'est
ça. Vous n'aviez pas le droit de sortir.
Oui, oui, absolument.
Si mes souvenirs sont bons, vous n'aviez pas le droit de sortir.
Non, on ne sortait pas. Il fallait une autorisation. Sauf en été, quand vers la fin, juste un petit peu avant la révolte des camps, on pouvait aller travailler chez les paysans et tout. Vous savez, moi, pendant des années, j'ai gardé le produit des tomates vertes, le produit vert, là, vous savez, qui est c'est un produit qui empêchait les petites bêtes d'aller bouffer les tomates. Qu'on mettait sur les tomates. Moi, j'ai ramassé des tomates pendant des années, pendant les vacances scolaires, après, quand j'étais à l'école que 2 ans. Après, à 16 ans, j'ai quitté l'école parce que 16 ans, c'est la fin d'âge, c'est la fin de l'âge obligatoire pour la scolarité. Donc, je travaillais dans les tomates, dans les fruits, dans les isouines, et je travaillais les mains nues. Le bout de mes doigts était de couleur verte, le même produit qu'il y avait sur les tomates, pendant toute l'année.
Donc, vous voyez, Mohamed, j'ai 80 ans et ça me travaille encore.
Qu'est-ce qui vous
ça
travaille
me travaille encore, parce que j'ai horreur de l'injustice.
Oui, l'injustice.
Et la France, dans le maintien de l'ordre, puisqu'il est considéré que l'Algérie était française, dans le maintien, donc c'était pas une guerre, parce que c'était la guerre contre la France contre la France, quoi. Donc c'était du maintien de l'ordre. J'ai même été décoré pour ça. Hein, vous voyez, comme quoi, faut pas déconner. Mais je veux dire par là que je n'ai pas compris la position des gouvernants français à l'époque. Pourtant, c'était le général de Gaulle qui avait dit à l'époque que l'Algérie était française, et puis qui, en définitive, 2 ans plus tard, a signé au mois de mai 62, je crois, hein, c'est ça. Au mois de mai 62, qui a signé en définitive, il a déçu tout le monde. Hein. Bon, c'est une erreur qu'il a fait, mais enfin, je veux pas lui en vouloir parce que des erreurs, on en fait tous. Mais je tiens à exprimer. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Mohamed?
Je suis à la retraite.
Vous êtes à la retraite.
Oui. Alors, malgré tout, j'ai mes amis qui vont peut-être m'incendier demain en me disant « fallait pas parler de toi ». Malgré tout, personnellement, je suis touché psychologiquement, comme tous les enfants de Harkis. On est tous touchés. On est tous touchés, indiscutablement. On est fracassés psychologiquement.
Comment ça peut être autrement, Mohamed?
Socialement, j'ai pas trop mal réussi. J'ai fini adjudant dans l'armée française. Je suis à la retraite. J'ai créé une chaîne de restaurant en activité.
Bon,
j'ai travaillé dans le bâtiment.
Je suis content quand un descendant de la famille des Harkis ont connu justement cette misère, parce que c'était vraiment... Est-ce que vous mangez à votre faim dans ces camps?
Ah non, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Non. C'est ce que je disais tout à l'heure à notre ami le journaliste, excusez-moi, j'ai oublié son prénom.
Olivier.
Ma maman, Olivier.
Je vous en prie.
Mon papa était fracassé, il était tombé dans l'alcoolisme comme tous les autres. Et ma maman, elle faisait 18 heures de travail par jour pour nous nourrir, parce qu'on était... On était arrivé avec 5 enfants, donc 7 en tout, avec le papa et la maman. Et non, on n'avait pas. Non, le responsable du camp nous prenait nos prestations, il nous volait nos prestations, il nous donnait 150 francs sur 360 d'allocation familiale. Et le reste, bon, on n'avait rien, il ne nous donnait rien. Ouais, 150 francs.
Oui, bien souvent, ceux qui distribuaient l'argent, ils en gardaient la moitié.
Plus de la moitié.
C'est pas vrai.
Si, absolument, c'est ce que je dis. Plus de la moitié. Sur 360 francs.
Vous en prenez la moitié. Et je vous veux bien, moi je m'appelle Gilles et je suis un bon français. Hein. Je suis français de chousse machin. Mais seulement, je vous dis, si j'avais pas eu vos grands-pères à l'époque qui avaient le même âge, parce que moi je suis né en 41, donc j'ai fait la guerre d'Algérie, puis en 41. C'était jusqu'en 62, donc à 20 ans, je suis parti. Eh bien, et à l'époque encore, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui faisaient 36 mois, 3 ans. 3 ans, vous vous rendez compte? 3 ans. 36 mois, 3 ans, les jeunes qui quittaient l'école pour aller faire du maintien de l'ordre, ils n'étaient même pas formés. Vous savez, là, c'est pour Olivier que je vais parler, là.
Oui.
Vous savez, Olivier, ils en ont fait un film, d'ailleurs. Il y avait un jeune lieutenant qui était médecin, mais qui était appelé comme tout le monde, mais étant donné qu'il avait fait des études, il l'avait nommé lieutenant. Eh bien, à un moment donné, ils se font tirer en haut d'une crête. Et alors, ils se défendent, bien sûr, ils tirent. Et puis, pendant ce temps-là, il fait venir derrière la crête des hommes armés. Et puis, ils ont réussi quand même à faire un prisonnier. Et par radio, vous savez, les gros appareils radio de l'époque, c'est pas maintenant les smartphones que l'on connaît,
il dit,
on a un prisonnier, qu'est-ce qu'on en fait? Et le lieutenant, pour vous dire, le lieutenant, il dit, descendez-le. Mais descendez-le, il a compris, descendez-le, ramenez-le chez nous, enfin, ramenez-le à moi.
Oui, oui.
Et il entend un tir. Et quoi? Mais il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous nous avez dit de le descendre, alors on l'a descendu. Vous rendez compte, dans l'incompréhension totale, les gens étaient complètement... Ils n'étaient pas formés pour ça.
Non, mais c'est ce que je disais. Gilles, vous êtes d'accord avec moi quand je disais à Olivier que l'armée française tombait dans des embuscades comme des mouches à partir du 1er novembre 1958-54.
Tout à fait.
Ouais, merci. Merci de le confirmer, Gilles.
Vous savez, des deux côtés, c'est là où on se rend compte que, de toute façon, les conflits comme ça, guerriers, là,
des deux côtés, il y a eu
des milliers d'innocents.
Je tiens à préciser par rapport à ce paragraphe précis concernant 54-58 que nos parents, donc, quand ils ont été engagés en 58, en grand nombre, et ils ont inversé le rôle de la guerre. Ils ont renversé la situation. Ils ont fait de la défaite une victoire. En un an, ils étaient vainqueurs sur le terrain.
Qu'est-ce qui a été fait, Mohamed, aujourd'hui pour rétablir un peu le...
Gilles, rien. C'est pour ça que C'est pour ça que, j'allais dire, depuis que je suis à la retraite, même avant, je travaillais et je traitais des problèmes archis au téléphone tout en travaillant. Je travaillais pour moi. Et aujourd'hui, depuis que je suis à la retraite, depuis très précisément 2015, si vous tapez sur Google Réunion Association Génération Archis, c'est comme ça que s'appelle mon association, Réunion le 29 août à Mazamé, vous trouverez une grande réunion. On a démarré des procédures en justice à partir de 2015. Donc nous avons entrepris des actions en justice contre l'État. Et même là, Gilles, ce sont des lâches. Nos gouvernants, ce sont des lâches.
Il nous reste trois minutes.
Le gouvernement actuel, c'est le pire des lâches qu'on a eu depuis 62. Il nous oppose systématiquement la prescription quadriennale à nos dossiers de procédure en justice. Systématiquement, il y en a eu un à qui on ne l'a pas opposé, à Versailles, il a gagné. Mais comme il a gagné timidement, on lui a attribué une somme minable, misérable, il a pris le petit peu d'argent qu'il a gagné au Conseil d'État, au tribunal administratif de Versailles. Son dossier suit quand même à la Cour européenne des droits de l'homme.
Au-delà de ça, parce que tant que des excuses n'auront pas été prononcées de manière claire, il y aura toujours un malaise, il y aura toujours une blessure.
Non, c'est pas des excuses, c'est une tentative de soudoiement.
De ?
Du soudoiement, oui. Avec son pardon, là. Non, c'est un faux pardon.
Non, mais moi je ne vous parlais pas de cette affaire-là, je vous parle d'une manière générale.
De manière générale, on est toujours trahi.
Vous attendez, il nous reste juste 1 minute 30, Mohamed, donc j'aimerais que vous disiez...
1 minute, moi je vais prendre 30 secondes. Je vais prendre 30 secondes que peut-être que Mohamed ne sait pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des Français qui sont passés du côté des FLN ?
Mais oui, mais bien sûr.
Vous voyez, Olivier, la pagaille que c'était ?
Oui, oui.
Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai terminé.
Je vous demande le pardon en tant que vos grands-parents, parce que c'est vraiment injuste et j'ai horreur de la justice. Et j'ai 80 ans et ça me travaille encore.
Mohamed.
Merci Gilles.
Merci Mohamed.
Et puis bonne route. Hein.
Merci Gilles.
Merci à vous. Merci, bonsoir.
Au revoir, bonsoir.
Olivier, si vous pouvez donner mes coordonnées à Gilles,
vous ne raccrochez pas et on va vous donner ses coordonnées pour que vous puissiez échanger tous
je
les
vous
deux.
Merci. En tout cas,
allez-y.
Un petit mot de la fin,
bien évidemment.
Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Gilles, je suis content d'avoir fait votre connaissance.
Vous avez 45 secondes, Mohamed. Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui, même si vous n'espérez plus trop grand-chose ?
La plus grande trahison de l'histoire, subie par les Harkis. La plus grande trahison de l'histoire qui dure depuis 60 ans. Tous les gouvernements successifs depuis 1962, qu'ils soient de gauche, du centre, ou de droite, se sont donné le mot pour laisser cette énorme chape de plomb sur l'histoire des Harkis. Quand on en parle de l'histoire des Harkis, on la déforme et on amplifie la déformation. Tel qu'on la lit, tel que les historiens la disent, c'est faux. Ou en tout cas, il y a un minimum de vérité. Toute la vérité ne la disent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, Association Génération, avec quelques-uns, nous sommes au charbon, nous montons au créneau à la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous allons y arriver.
Oui, et c'est tout ce que je vous souhaite, Mohamed. Merci en tout cas pour ce témoignage édifiant et nous rappelant une sombre partie de notre histoire que je ne maîtrise pas totalement, et vous m'en excuserez, Mohamed. En tout cas, on vous souhaite bien évidemment plein de courage, et il va vous en falloir encore. Et puis, ne raccrochez surtout pas, Mohamed, on va vous passer les coordonnées de Gilles. Au revoir. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous avez été nombreuses et nombreux à réagir au témoignage de Mohamed et à l'intervention de Gilles. Beaucoup d'entre vous sont comme moi, ne connaissent pas très bien cette période de notre histoire, mais vous avez été bien évidemment une grande majorité à détecter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, bien évidemment, du côté de ce que la France à l'époque a fait par rapport à ces personnes harkies. Écoutez, je vous renvoie à Wikipédia, la guerre d'Algérie, je vous renvoie à des références sur Internet, vous y trouverez tout ce que vous voulez. Vous pouvez bien évidemment retrouver le nom de l'association dès demain de Mohamed qui vous apportera quelques détails. En tout cas, c'est la libre antenne et ça n'était pas une intervention historique, hein, politique. Bien évidemment, il y avait l'ingrédient historique et politique dans l'intervention de Mohamed. Mais j'en retiens surtout une chose essentielle. Comment vit-on une vie entière en ayant été victime d'une profonde injustice, en ayant été rejeté de toutes parts, en étant nié encore aujourd'hui? Comment vit-on avec cette injustice? Comment parle-t-on à ses enfants? Il y a tout un tas de questions qui me sont venues en tête et ce témoignage de Mohamed doit nous renvoyer à ce type de questionnement et surtout à faire en sorte que plus jamais, en notre nom, puisque nous votons, nous ne trahissions qui que ce soit. On accueille Nicolas maintenant au 39-21. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Nicolas, et quel âge avez-vous ?
Donc, moi, je vous appelle de Saint-Ouen et j'ai 22 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Nicolas ?
Aujourd'hui, j'appelle pour rendre hommage un peu à mon oncle décédé en 2018. Donc, pour parler un peu de l'affaire qu'il a subie et puis du manque que j'ai de lui.
Oui. Que lui est-il arrivé à votre oncle?
Alors malheureusement il était tué par un meurtre à Liévin en 2018.
Alors il a été assassiné, c'est ça?
Assassiné, voilà, c'est ça.
Et est-ce que on a trouvé et arrêté celui ou celle qui avait commis ou ceux, je ne sais pas, vous allez m'expliquer qui avait commis ce meurtre?
Oui, pour ce cas, c'était sa compagne depuis 2015. Donc, elle a été arrêtée. Elle s'est dévouée elle-même le surlendemain du crime, et ensuite a eu lieu le jugement justement lundi, mardi et aujourd'hui. Donc, le jugement qui a apporté 17 ans de prison. Et des dommages et intérêts pour la famille. Voilà.
D'accord. Il y a eu un procès pour tout ça, donc?
Oui, il y a eu un procès aux assises de Saint-Omer. Donc, ma mère a pu s'y déplacer. D'ailleurs, je lui passe le bonjour à l'antenne au Guy aussi.
Oui.
Et c'était très dur pour elle de voir toutes ces images. Et puis de se remémorer cette journée-là, de savoir ce qui s'est passé réellement. Et il y avait elle qui était présente à ce moment-là.
Présente où, Nicolas? Présente au tribunal ou présente...
Oui.
D'accord.
Au tribunal, voilà.
Ok. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire de votre oncle, en fait? Que s'est-il passé?
Maintenant je peux un peu rentrer dans les détails avec ce jugement du coup qui a eu lieu. Il y avait une histoire d'argent, on va dire, entre guillemets, quoi, qui a fait qu'ils se sont parlé dans un lieu très très limité au niveau des personnes, quoi. En fait, c'est un lieu isolé, on va dire.
Oui, ils n'étaient que tous les deux.
Un genre de cabanon.
D'accord.
Voilà, que tous les deux. Donc, pour parler un peu des projets qu'ils allaient faire, parce que mon oncle avait mis sa compagne, l'accusée, en tant que curatrice.
Oui.
Donc, elle avait accès à ses comptes bancaires, etc. Donc, ils étaient en train de parler de projets et mon oncle avait ses projets de vouloir acheter un mobil-home près des étangs, etc. Faire vraiment profiter un peu de
la
tout
vie.
Ça.
Oui.
De la vie, voilà.
Il pêchait un peu ? Il était pêcheur ?
Oui, oui, oui. Enfin, je sais qu'il pêchait, il n'était pas pêcheur, mais il aimait bien la pêche, tout ça. Après, du coup, ils ont parlé de tout ça, sauf que l'accusée n'était pas du tout de ce point de vue-là, elle était plutôt là par profit, on va dire.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que mon oncle était un peu déficient mental, on peut dire, entre
d'accord,
guillemets. Quoi.
D'accord.
Enfin, du moins, il a été décrit comme cela, donc elle profitait un peu de lui pour avoir un peu tout ce qu'elle voulait, quoi, en gros.
Oui.
Elle lui a même, avec ses économies, acheté une voiture, alors que mon oncle n'avait pas le permis. Donc c'était pour elle, quoi. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de ce côté-là.
Oui.
Et donc, dans cette discussion, à mon avis, ça a dû virer un peu en dispute. Qui a mal tourné parce que il y a eu forcément des coups de couteau, une soixantaine de coups de couteau qui ont été donnés sur mon oncle. Et donc le corps a été laissé sur place, du coup quasiment introuvable. Et elle a eu quand même la conscience de se dire que voilà, son jean, il avait du sang dessus. Et elle a quand même pris celui de mon oncle pour partir avec, histoire d'être propre et d'être vraiment intouchable au niveau de cette affaire.
Mmh.
Donc, c'est quelque chose qui fait du mal à raconter. Donc, le corps y avait été retrouvé le lendemain parce que... ça se trouve dans des entrepôts comme un peu une zone industrielle. Donc forcément, il y a des gens qui vont travailler dans les entreprises qui sont adjacentes. Et forcément, il y a quelqu'un qui a dû retomber sur le corps en question, qui a été déposé pas loin de carrés d'herbe et de grillage, tout ça, pour être introuvable, quoi.
Mmh.
Et après, pour l'anecdote, moi, quand j'ai appris que c'était mon oncle, j'étais encore au lycée avec ma femme Anaïs, dont je passe le bonjour également, et j'étais en train de passer mon bac commerce.
Mmh.
Donc j'étais en train de passer mes épreuves d'oral, d'anglais, tout ça, la fin des épreuves, et on allait m'apprendre si c'était mon oncle ou pas, parce que y a eu quand même des analyses qui ont été faites. Et ma femme, pour me protéger, elle a décidé de me le cacher pendant quelques heures, histoire que je me concentre beaucoup sur les épreuves, qui fait que je la remercie, car j'ai quand même eu ce bac à l'heure d'aujourd'hui. Et ça m'a un peu effondré, et j'ai encore un peu du mal à en parler, parce que voilà, j'ai eu pas mal de moments fusionnels avec lui.
Vous étiez très proche de lui, visiblement.
Oui, oui. J'allais souvent chez lui. Donc, il a habité Liévin, mais il a aussi habité du côté de Roubaix, vers Lannoy. Et je prenais le train, même tout seul, vers l'âge de 10 ans, pour aller jusqu'à l'île Flandre, prendre
le
un
voir.
Métro, etc., pour juste le voir.
Oui.
Passer un week-end, dormir chez lui, jouer avec lui. Écouter beaucoup de musique, je lui gravais des CD qu'il aimait bien, tout ça. Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de complicité. Et justement, cette femme, quand elle est arrivée dans sa vie, ben, j'ai eu une espèce d'éloignement qui s'est créé, une espèce de distance. Et ben, je trouvais ça bizarre au début. Et j'aurais su ça, ben, je me dis dans ma tête, j'aurais pas dû lâcher ce contact justement. Et peut-être j'aurais vu que à un moment ou un autre, ça allait pas et
Qu'il
qu'il
y
y
avait
avait
quelque
quelque
chose qui
chose
n'allait pas,
qui
oui.
tournait pas rond. Voilà. Tout simplement.
Alors, est-ce que vous auriez vu ou pas ça? Vous avez senti quelque chose, en tout cas?
Oui, ben voilà, j'ai senti quelque chose, mais ne doutez pas que ça allait être aussi cruel, quoi.
Oui.
Mais j'ai senti quelque chose avec cette espèce de distance. Moi, je pouvais passer des week-ends chez lui sans souci, mais quand cette femme est arrivée, au début, ça allait bien, et au bout d'un certain moment où elle s'est installée, ben, c'était plus pareil, je repartais plus du tout. Au bout de 2 3 jours, c'était limite 1 heure ou 2. Enfin, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et malheureusement, il était manipulé. Il aimait de tout son cœur. Et puis, bah, il s'y donnait à corps et âme pour faire tout ce qu'elle voulait avoir. Et puis, le destin, on a décidé autrement, quoi, malheureusement.
Mais en fait, cette femme était mariée avec lui ou elle était paxée, qu'est-ce qui l'a reliée à à votre oncle?
Non, ben, il me semble qu'ils se sont rencontrés. C'était des voisins à l'époque. Il me semblait qu'ils m'avaient expliqué que c'était des voisins, qu'il y avait un bon lien et qu'ils se sont rapprochés. Mais non, il n'y avait pas de pacte ni de mariage qui le reliait. Donc pour moi, ils pouvaient aussi bien se séparer sans souci, que il n'y avait pas de lien direct. C'était juste une compagne. Ils vivaient pas dans la même maison, en fait. Elle venait chez mon oncle, mais elle dormait ailleurs, tout ça. Donc c'est tous ces petits indices comme ça qui m'ont fait croire que c'était pas normal, parce que passer sa journée chez quelqu'un pour en étant compagne et pas dormir chez la personne et partir. Voilà, c'était un peu louche.
Enfin, je vois que vous avez écrit à Julia et à Florent, à Florian, pardon, qu'elle avait accès à ses comptes bancaires et qu'elle a fait des virements de 25 000 euros, 30 000 euros en l'espace de 2 ans pour son fils.
Oui.
Donc, elle a escroqué votre oncle, cette femme, avant.
Oui. Totalement, totalement. Donc, il y a eu pas mal d'économies de gaspiller qui sont partis chez son fils,
Ben
qui
oui,
sont
parce qu'il
partis,
il
comme
avait
il
mis de
disait tout
côté,
à
lui, un peu.
l'heure.
Il avait mis de côté, un peu, lui.
Voilà, c'est ça. Bah, il était sous tutelle, donc forcément il pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait. Donc le fait qu'elle ait pris le rôle de curatelle, elle lui a peut-être un peu montré qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, du coup, maintenant, parce que c'est elle qui gérait tout ça. Et je pense qu'elle en a profité davantage pour l'escroquer financièrement. Voilà. Donc
Oui, c'est une sale histoire, une sale histoire. Comment ça s'est passé? Donc le tribunal, elle a été condamnée à combien de d'années de prison?
17 ans, 17 ans.
17 ans.
Moi, je trouve que
C'est pas
c'est très
beaucoup, hein.
peu.
Bah oui, c'est pas
Pas
beaucoup.
beaucoup,
Ah non, c'est pas beaucoup, non.
sachant que moi j'ai toujours dit que la justice était un peu laxiste à ce niveau-là, parce que ben en réalité 17 ans, elle fera pas 17 ans complètement. Je sais
Non.
très bien que dans les jours d'aujourd'hui, 5, 6, 7 ans, et puis après ils sont dehors, limite avec un bracelet électronique et tout ce qui va avec. Et puis voilà quoi, c'est quand même scandaleux, parce que ben ôter la vie de quelqu'un et y avoir que 17 ans, c'est quand même poignant de savoir
Bien
que
sûr, bien sûr.
voilà, la peine perpétuelle, n'est plus mise en œuvre et la peine de mort n'existe plus non plus, malheureusement. Donc, voilà.
Non, c'est certain, vous avez raison de souligner que c'est extrêmement peu. Hein ?
Oui.
Ben oui. Et c'était le frère de votre maman, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça. Et on a vraiment une petite famille du côté de ma mère. Donc il y avait quand même sa mère qui est très touchée par la situation parce que elle a vu aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'elle avait l'habitude que le jeudi matin, il buvait un café chez elle.
Oui.
Et quand le drame est arrivé, elle s'est dit c'est bizarre, ça fait une semaine, deux semaines que je le vois plus, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que quand on l'avait contacté pour demander si c'était bien lui, s'est dit ça peut être malheureusement que lui, parce que il y avait ses habitudes aussi de fréquenter beaucoup sa mère, il était fort attaché aussi à sa
oui,
mère.
Oui.
J'ai également un autre oncle, son frère, qui est dans un foyer médicalisé pour personnes handicapées, en fait, en Belgique.
Oui.
Donc c'est plus une association, une ASBL. Et pareil, on n'ose pas trop parler de cette histoire parce que vu qu'il est aussi un peu déficient mental, malheureusement, c'est un peu compliqué d'expliquer ça tragiquement. Donc on a dû un peu mentir, on va dire, sur la cause du décès et pas rentrer trop dans les détails. Et c'est compliqué, quoi.
Oui. Je comprends que ce soit vraiment compliqué pour vous. Vraiment compliqué, mais il va vous falloir maintenant accepter. Bon, elle a été jugée, donc maintenant, pour vous, c'est déjà un soulagement, vous voyez ?
Oui.
Ça, c'est arrivé, donc, il y a combien de temps, ça, vous me l'avez mis, hein ? Il a été assassiné en quelle année ?
En 2018.
2018, donc elle s'est fait attraper tout de suite ?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'est dénoncée elle-même le surlendemain.
Mmh.
Et elle a tout de suite avoué qu'elle était coupable. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre-temps, parce qu'elle a quand même été accompagnée de son ex-mari, qui l'a accompagnée à déplacer le corps, etc. Donc au début, il était coupable pour déplacement du corps, etc. Et puis maintenant, il y a eu un non-lieu qui a été mis en place,
oui.
Qui était juste témoin. Donc, pareil, ça, j'ai pas compris cette histoire. Et puis, après, à ce niveau-là, je voulais rajouter quelque chose également, mais ça m'est parti.
Bon, en tout cas, aujourd'hui, elle n'a pas fait appel pour l'instant de cette condamnation ?
Non, pas du tout, non.
D'accord. Vous pensez qu'elle va faire appel ? Qu'elle pourrait faire appel ? À votre avis ?
Je ne sais pas. Je pense qu'elle pourrait. Je pense qu'elle pourrait, mais...
Vous ne savez pas comment elle s'est comportée, par exemple, au tribunal ?
Non, pas du tout, non.
Non.
Mais d'après ce que j'ai vu dans le journal, parce que j'ai quand même donné l'accord à un journal de pouvoir diffuser ces informations, elle était prise sous l'emprise des médicaments qu'elle prenait pour tout ça, et mentalement, et elle était pas vraiment dedans, en fait. Elle parlait comme si c'était une grosse bêtise d'avoir tué quelqu'un.
Oui,
c'était une grosse bêtise.
Oui.
Grosse bêtise,
oui.
Tout ça, donc je me suis dit, il y a un gros problème. Et donc, c'est pour ça que je pense pas qu'elle aurait l'honnêteté de refaire appel, sachant qu'elle a même pas conscience des actes qu'elle a faits. Donc, je pense pas qu'elle a conscience qu'elle a pris 17 ans aujourd'hui de prison. Donc elle va même pas se rendre compte du temps qui passe en prison, tout ça. Et...
Oui, enfin ça, c'est pas sûr.
Voilà.
À mon avis, elle va à un moment percuter sur justement sur le temps qui passe, comme vous dites. Je pense que pour elle, ça va. Là, maintenant, c'est du concret, vous voyez?
Voilà, oui.
Ah oui, c'est du concret. Donc.
Après, on se dit, elle a quand même fait déjà 4 ans, enfin depuis
Oui,
2018, elle a fait quand même
Et avec les remises de
un
peine,
bon
c'est sûr
paquet,
que.
quoi.
Ouais. C'est sûr qu'avec les remises de peine, elle sera assez vite. Enfin, 4 ans. Oui, elle sera sortie dans 6-7 ans.
Voilà, c'est ça.
Écoutez, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Hein. Vous me paraissez très marqué par cette histoire, très marqué.
Oui. On a également lancé un groupe Facebook en hommage.
Oui.
Donc, il se nomme en hommage à Jonathan Langlais.
Oui.
C'était même mon oncle. Donc, il y a quand même bientôt une centaine de personnes qui ont rejoint le groupe pour avoir accès aux informations du journal. Et puis, on partage également quelques clichés parce qu'on en a très très peu. On doit en avoir une dizaine de clichés. On n'a pas vraiment eu le temps de prendre beaucoup de photos. Et donc, du coup, on garde ces photos précieusement pour les partager avec la famille qui participe également.
Oui,
Et
oui.
ça restera toujours un ange qu'on garde auprès de nous, quoi. Parce que moi, ce qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est que j'ai rencontré ma femme en août 2017
Oui.
et j'ai toujours voulu qu'elle le connaisse. Donc j'étais en main et âme sur Facebook pour essayer de le contacter via les réseaux parce que j'avais plus son numéro de téléphone. Il avait changé de numéro de téléphone. Il n'y a plus personne dans la famille qui avait de contact vraiment physique avec, à part
Oui,
ma
oui.
grand-mère. Et moi, j'ai essayé en corps et âme de rentrer en contact pour essayer de lui faire rencontrer ma femme, etc. Et quelques mois après, il y a ce drame qui arrivait. Donc j'étais un peu déçu. Et c'est après 4 ans de décès de mon oncle que je me rends compte qu'il n'y a pas connu non plus mon fils qui est né au mois d'avril cette année.
Oui.
Donc je vois mon enfant, je me dis voilà, il l'aura jamais connu, tout ça. Donc ça me touche particulièrement parce que niveau famille, on va dire que je suis pas fortement entouré à part mes parents, mes frères et sœurs. Je suis beaucoup avec ma belle-famille également. Donc sinon, à part moi, mes parents, mes frères et sœurs et ma grand-mère et mon oncle que j'ai parlé tout à l'heure en foyer médicalisé, ça reste vaste. Il n'y a pas vraiment de famille au-delà. Donc c'est pour ça que quand on perd des êtres chers, qu'on n'a déjà pas beaucoup de famille,
Oui.
c'est quand même malheureux, quoi.
Bien sûr que c'est malheureux. Bien sûr que c'est malheureux, vous avez raison. Mais maintenant, il faut se dire que c'est enfin jugé, hein. Donc vous allez pouvoir commencer votre deuil.
Oui, c'est
C'est
sûr,
comme ça qu'il faut voir les choses maintenant.
c'est que je voyais comme ça tout à l'heure. Je me dis, ça y est, enfin, moi, on sait que ça a quand même été jugé. Puis je vais pouvoir enfin commencer un deuil, histoire de me dire que voilà, on nous l'a enlevé, mais faut pas non plus. Voilà quoi, c'est trop tard maintenant. C'est pas le jugement qui va nous le rendre.
Exactement.
Donc on essaye de faire avec, même si c'est dur parfois, on essaye. D'ailleurs, en petit aparté, il y avait un jugement qui devait avoir lieu, mais malheureusement avec l'accusé qui a fait une espèce de tentative de suicide, il y avait eu un décalage. Ça avait lieu un peu plus... ça devait être 2-3 ans après, vers 2020-2021. Malheureusement, il y a eu un petit contretemps qui fait que ça a été décalé, suivant la santé de l'accusé.
Mmh.
Donc, je me suis dit, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. On attendait tous ce jugement de pied ferme. Et... voilà. Après,
bon, ça y est, c'est fait maintenant, hein, Nicolas.
Voilà, c'est ça.
C'est fait, et il faut maintenant essayer de passer à autre chose. Alors, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Vous pouvez vous dire maintenant que... donc, que vous allez pouvoir passer à autre chose.
Oui, c'est une page à tourner. C'est sûr que c'est pas évident, mais on va essayer.
Ça va se faire. Ça va se faire. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, en tout cas, Nicolas.
Il n'y a pas de souci. Ben, je vous remercie également.
Et puis, courage à vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Je sentais que c'était nécessaire pour vous de parler. De votre oncle et de ce qui s'était passé. Rappelez-moi la page Facebook qui a été faite.
Oui, donc il y a un groupe Facebook, c'était en hommage à Jonathan Lenglet. Donc Jonathan Lenglet, L-E-N-G-L-E-T.
Oui. Voilà.
Et si vous marquez Jonathan Lenglet sur Facebook, vous allez retrouver normalement les articles de journal qui correspondent à toute l'enquête.
D'accord.
De la découverte du corps jusqu'à aujourd'hui, le dernier article, parce qu'on a quand même un article par jour du jugement, donc ça détaille super bien les 3 jours de ce jugement qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui.
D'accord.
Avec la peine et tout ce qu'il faut avec. Voilà.
Très bien, bah écoutez, encore une fois... courage à vous, et puis merci de nous avoir appelés sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, et on vous souhaite bien évidemment plein de courage, hein, mon cher Nicolas.
D'accord, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Portez-vous aussi bien. Également.
Au revoir. On accueille Bernadette maintenant, au 3921. Bonsoir Bernadette.
Bonsoir Olivier. Merci
Bonsoir.
De me prendre l'antenne, et merci à Florian.
Je vous en prie, nous vous avions dit l'autre jour que nous évoquerions tout ce que vous... Vous
oui.
aviez dit l'autre jour, en fait, quand vous êtes intervenu sur notre antenne. Et voilà, il est temps de vous consacrer un moment à vous, Bernadette.
Oui. Alors, j'ai eu un parcours de vie très difficile, dans le sens où, depuis ma naissance, je dirais, jusque maintenant. Et maintenant, j'ai une vie brisée, puisque je subis une dépression très sévère. J'ai subi que de l'injustice. Déjà, dans mon enfance, un père alcoolisé, donc inceste. Milieu agricole, il fallait travailler et ne rien dire. J'avais pas le droit de manger le soir. Interdiction d'allumer la lumière de ma chambre pour faire mes devoirs. Puis après, mon père est décédé très tôt, heureusement.
Oui.
Ensuite, c'est ma mère qui est devenue aveugle. Ensuite, j'ai eu mon frère qui avait une déficience mentale. Et quand il y a eu l'exploitation agricole qui a brûlé, j'ai dû faire face à tout. Et moi, j'attendais mon fils. Et ma mère est décédée en mars et mon fils est né au mois d'août. Et depuis, je ne pensais pas que ce que mon père avait fait à la naissance de mon fils, tout allait me revenir en plein visage comme un boomerang.
Oui.
C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne pouvais pas toucher mon fils pour lui faire des câlins. Je dis, je suis une mauvaise mère. Je suis pas une bonne mère, j'arrive pas à faire de câlins, j'arrive pas à le toucher sur tous les endroits intimes. Et quand je suis allée voir un premier psychiatre, il m'a expliqué que c'était dû à mon enfance, ce qui s'était passé avec mon père. Mais malheureusement, le couple, je me suis plus permise d'avoir des rapports avec mon ex-mari, étant donné que j'étais pas capable d'aimer mon gamin comme j'aurais dû. Alors donc, il y a eu forcément divorce qui s'est très mal passé dans le sens où mon ex-mari a tout pris, la moitié de la maison du mariage, Et puis après, je me suis retrouvée hospitalisée. Et là, il m'a fait signer un document comme quoi j'avais reçu l'héritage de ma mère, alors que c'était tout à fait faux. Et il a remonté mon fils contre moi en disant, tu vois, ta mère, elle est en clinique privée psychiatrique, elle est folle. Donc, quand je suis allée voir le notaire, il m'a dit, vous voyez, vous avez signé ça. Oui, mais je lui ai dit, j'étais hospitalisée. Donc, il m'a dit, vous avez 2 ans pour le mettre au tribunal, votre ex-mari. Et le gamin...
Parce que je comprenne bien, en fait, il vous a fait signer un document lorsque vous étiez à l'hôpital.
Oui.
Document que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez
non,
pas...
Non, parce que j'étais sous neuroleptique.
D'accord.
Et quand on est sous neuroleptique, on
oui,
est...
on est un peu chaos. Voilà.
Oui, chaos. Et donc, quand le notaire m'a appelé, il me dit, vous avez signé un document? Ben, j'ai dit, non, je voudrais bien le voir. Donc, je suis allée le voir avec mon fils. Et il me dit, ben, je lui dis, je peux vous apporter la preuve que j'étais hospitalisée, que j'étais sous préfusion, anafranil, tertian, soliant. Donc, je ne pouvais pas trop... Et il m'a dit, vous avez 2 ans pour mettre votre ex-mari au tribunal. Quand je suis redescendue de chez le notaire avec mon fils... mon fils m'a tout de suite dit, si tu mets papa au tribunal, je ne resterai pas avec toi. Donc j'ai fait le choix de tout laisser, la moitié de la maison du mariage, l'héritage de ma mère, et de garder le gamin. Et 2 ans, jour pour jour, mon fils est parti vers son père. Je pensais que c'était une passade, mais ça n'a pas été une passade, parce que ça dure depuis... Ben, il est parti à l'âge de 10 ans. Et je ne l'ai jamais revu depuis 22 ans. Je l'ai vu que 3 fois,
oui,
environ. Et la seule chose qu'il savait me dire, quand il me voyait, « Ah, tu n'es encore pas, entre guillemets, crevé de tes médocs, comme tu fais souvent des tentatives de suicide. » Je lui ai dit non, mais bon. Je lui ai dit, « Tu seras mon seul héritier, il faudra bien que tu fasses ce qu'il faudra faire quand je ne serai plus là. » Il m'a dit non, je t'achèterai une boîte en carton. Ah bon. Et là, dernièrement, comme j'étais arrivée dans une impasse où je n'avais plus rien pour vivre et il fallait que je déménage, mon médecin traitant l'a appelé pour lui demander de venir me voir en lui disant « Votre mère est malade, votre mère doit déménager, il faut l'aider. » Et il est venu. Et je lui ai dit « T'as eu un appel du médecin ?» Il m'a dit « Non ». Bah, je lui ai dit « Si, je pense que si ». Il m'a dit « Oui ». Alors, je lui ai dit, tu travailles? Parce qu'il est ingénieur. Alors, il me dit non. Ah bon? Je lui ai dit, tu ne travailles pas? Non, il m'a dit, j'ai démissionné. Ah bon? Et donc, là, parce que je lui ai dit, il y a une loi qui prévoit que quand les parents sont en précarité, les enfants, si vraiment ils ont une vie très, très à l'aise, peuvent aider leurs parents. Alors, ça, c'est encore, je dirais, une petite parenthèse, parce que ce qui m'a surtout qui m'a rendu malade, c'est que j'ai subi un viol par un concierge d'une résidence où j'habitais, mais qui était ancien gendarme.
Vous m'aviez
dit ça. Qui avait tous les droits sur la résidence.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il avait notre numéro de portable pour que les gens qui viennent sonner à la porte, il y avait le téléphone qui sonnait et on ouvrait la porte comme ça. Donc, il avait mal mis sur tout, le courrier, les colis, l'entrée de la porte, l'eau, tout. Donc, j'ai eu une coiffeuse qui est venue me voir, puis elle m'a dit, tiens, j'ai vu ton fils. Ah bon? Elle m'a dit, il faudrait que tu ouvres un compte Facebook pour pouvoir voir sa photo. C'est ce que j'ai fait. Naturellement, le concierge m'a dit, tu es triste sur ta photo, il faudrait que je te reprenne en photo pour, si tu veux, retrouver ton fils. Et comme il ne s'était rien passé pendant quelques années, j'ai fait confiance au concierge. Et il est venu chez moi, mais malheureusement, c'est tourné en viol. C'est-à-dire que ça a duré 6 mois quand même, cette histoire-là. Ça a duré du 22 juin 2016 jusqu'au 21 novembre 2016. Et il n'arrêtait pas de venir frapper à ma porte, de m'apporter, comme on appelle ça en droit, des récompenses, c'est-à-dire... Il m'achetait des strings, tous ces trucs-là, et il me demandait à les mettre. Et il me disait, tu sais, tu connais mes horaires, tu sais ce que je peux faire, etc., etc. Donc, je faisais ce qu'il me demandait. Et un jour, il m'a dit, je te préviens, ce soir, tu es invité chez moi, tu mets des talons aiguilles, des bas, et tu dois être là pour 20 heures.
Pourquoi
donc là,
est-ce que,
je me suis sauvée.
Voilà, d'accord, parce que vous vous exécutiez au début, hein, m'avez-vous dit.
Oui, parce qu'il avait, il pouvait me couper l'eau, il pouvait me couper, ben, retirer mon numéro de portable sur sa boîte informatique, et ça fait que, comme j'étais consultante juridique à cette époque-là, j'avais des clients, ben, ils ne pouvaient pas venir sonner chez moi parce que moi, je n'aurais pas entendu mon téléphone sonner. Mmh, mmh. Et c'était lui qui prenait le colis, les courriers, et qui les mettait dans les boîtes aux lettres. Donc, j'aurais pas eu de courrier, j'aurais pas eu de colis, rien. Et j'étais tellement apeurée, et j'étais toute seule. Je fermais mes volets, mais ça a duré jusqu'au jour où il m'a appelé un matin, puis il m'a dit, t'as un colis, tu connais mes horaires. Bon. Donc, alors, c'était... J'ai reçu 2420 SMS, des photos morbides. Il m'a donné des clés USB où il faisait du sadomasochisme chez lui. Je lui ai fait des courriers en lui disant d'arrêter parce que j'allais me mettre fin à ma vie. Je suis montée jusqu'au 13e étage. Il l'a vu, donc il a vite refermé les portes. Je lui ai dit, je saute de toute façon. Une porte ouverte, je saute. Et je pensais qu'il allait comprendre à force de lui faire des courriers, à force de me cacher et tout. Et quand je suis rentrée, j'étais au 6e étage. Quand je suis rentrée chez moi, je suis tombée parce que j'étais tellement fatiguée. Je me suis dit, il va me dire, bon, ben, allez, je te laisse tranquille, on va en rester là. Eh ben non. Il a mis son sexe dans ma bouche. Donc, il n'avait encore pas compris. Et c'est là, le lendemain, qu'il m'a dit qu'il y avait un colis. Alors là, le matin réveillé, moi, qui dormais beaucoup, parce qu'il faut savoir que je prends quand même 20 médocs pour ma dépression, là, je me suis levée, et là, j'y suis allée, et je ne l'ai pas vue. J'ai vu sa femme. Elle me dit, vous venez quoi faire ? J'ai pas su lui répondre. Elle me dit, vous êtes partie en vacances ? Ah non, je dis pas du tout. J'étais enfermée dans mon appartement. Elle me dit, vous aviez les volets fermés. Oui, je vous dis que j'étais enfermée dans mon appartement.
Laurence, au 39-21, vous demande pourquoi vous lui ouvriez la porte tout le temps. Vous aviez peur de lui ?
Ah ben, j'avais pas le choix. Sinon, si par exemple, j'ouvrais ma porte et puis que j'aurais eu besoin d'aller chercher un colis ou d'aller à ma boîte aux lettres, ce qu'il faisait, parce que je l'avais remarqué, quand il était au 5e, ce qu'il faisait, c'est quand il arrivait au 6e, il rentrait chez lui, parce que son appartement était juste en face du mien. Il rentrait chez lui, il regardait s'il y avait du courrier pour moi, et il mettait le courrier qui lui plaisait dans les boîtes aux lettres. Donc je me suis dit, j'ai intérêt à faire ce qu'il demande, parce que je vais plus avoir de porte qui va pouvoir s'ouvrir pour que les clients ou le VSL, parce que j'avais le VSL qui venait tous les 15 jours, je me suis dit, je vais être embêtée parce que je ne vais pas pouvoir ouvrir la porte. Et il me surveillait tout le temps. Et dès qu'il entendait mon verrou s'ouvrir, il était tout nu devant sa porte.
Et personne ne l'a jamais vu faire ça ? Enfin, il n'y a pas eu de témoin ?
Alors
et
ça,
tout ça,
jamais. Il s'est toujours arrangé. Il a été très malin de ce côté-là. Il s'est toujours arrangé que personne ne le voit.
Pourquoi ne pas être allé à la police ? C'est parce que c'était un ancien gendarme ?
Oui, ben, il était ancien gendarme, justement. C'est ce qui m'a fait reculer, parce que comme il y avait un syndic derrière ce concierge, et que le syndic était pour lui, parce que le syndic, moi, je leur ai envoyé les premiers mails, en disant, vous voyez, votre concierge ne fait pas son travail. Après, j'ai envoyé des photos, mais les photos sans son visage. Et après... ils n'ont toujours rien fait. Et donc après, un jour, le jour où je suis descendue pour prendre le colis, c'est sa femme, et elle me dit, il y a un problème. J'ai dit oui. Elle me dit, vous êtes embêtée par une femme. Ah non, j'ai dit, j'ai encore pas changé de bord jusque-là. Et elle me dit, par un homme. Donc j'ai dit oui. Elle me dit, qui ? Alors là, j'étais quand même un petit peu... Ben, je lui dis, si je vous dis qui, les 13 étages tombent. Mon mari. Oui. J'ai dit, votre mari. Votre mari, oui. Et j'ai tous les justificatifs chez moi. Donc, elle m'a suivi. Elle est venue voir. Puis, elle me dit, c'est les photos de mon mari. Ben, j'ai vous couché avec ou... Je ne sais pas, mais... Bon. Elle avait l'air de regarder les photos. Ben, elle me dit, il est rasé, si, ça, etc. Il vous envoie des messages et au même moment, il m'appelle. Je dis, regardez, vous voyez bien qu'il m'appelle.
Oh là là,
c'est, alors,
là,
c'était pas possible.
Là, ça a dû être
je me sens mal. Donc, du coup, la coiffeuse, ce jour-là, elle est venue. Et là, on était tous en bas. Et elle me frappait contre le mur des poubelles. Et là, elle l'a arrêté. Elle a appelé son mari qui était gendarme et dans une autre gendarmerie. Il est venu, mais il n'était pas de service. Il lui a dit, vous me voyez, là. Mais vous allez avoir affaire à moi. Je vais demander à Madame Bazin de venir déposer plainte à notre commissariat et vous allez voir. Mais en fin de compte, j'ai tout perdu parce que ça a été classé pour insuffisance de pièces, c'est-à-dire que
c'était
les 2420 SMS.
Ah oui, ça n'a pas été pris en compte.
Non, les témoignages de mes clients, parce que je leur montrais les vidéos qu'ils me donnaient, les vidéos qu'ils faisaient chez lui, morbides, là. Je leur montrais. Donc, ils ont témoigné en disant Madame Bazoge nous a bien montré les vidéos.
Et pourquoi
du
vous ne les avez pas montrées aux policiers, ça ?
Si, j'ai donné la clé USB. Mais seulement quand il est revenu avec sa femme pour voir tout ce qui avait été mis sur ma table, là, tous les SMS, tous les photos, les courriers que je lui disais arrêtez, parce que je vais me foutre en l'air et tout. Mais non, il ne comprenait pas. Et donc, il a dit j'allais me suicider. Oh. Et puis, il ne s'est pas suicidé. Elle voulait divorcer. Elle n'a pas divorcé. Et en fin de compte, il a été couvert par le syndic. Et le tribunal a classé cette affaire pour insuffisance de pièces.
Ça, c'est assez incroyable, quand même.
Oui, incroyable.
Des pièces, il y en avait, Bernadette, quand même.
Ah oui.
Vous aviez pris un avocat.
Je ne sais pas combien. Il y avait pratiquement toute ma clientèle qui avait témoigné.
Oui, mais vous aviez pris un avocat.
Oui. Mais l'avocat était pour l'ancien gendarme. Il était gendarme.
L'avocat était gendarme ?
Non, mais l'avocat, il a parce que c'était un beau parleur, le concierge. Donc il parlait tellement bien qu'il arrivait à mentir, il arrivait à tout faire, à modouer les gens. Et il s'est arrangé pour que... Puis surtout, il a été couvert par le syndic en question. Donc, c'est sûr, puis il m'a fait passer pour folle. Parce qu'il a même demandé à un médecin psychiatre qui était sur la liste du tribunal de grande instance de m'expertiser. Et elle est allée voir mon agresseur. Et il a dû lui dire, ah oui, mais elle prend le VSL tous les 15 jours, elle déprime, etc. Et elle a voulu me mettre sous tutelle, cette psychiatre. Mais comme j'avais des connaissances en droit, elle n'y est pas arrivée. Elle a fait un faux rapport. Donc je n'ai pas été mise sous tutelle. Mais en fin de compte, elle voulait quand même me mettre sous tutelle. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Mais bon, ça, je n'ai pas été mise sous tutelle. Mais
vous ne l'avez jamais été depuis, sous tutelle ?
Ah non.
Jamais, d'accord.
Oh, non.
Vous avez évité ça.
Non. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois pas. Alors, je suis allée jusqu'à la cour d'appel quand même. Et la cour d'appel, ils n'ont pas été très sympathiques envers moi parce qu'ils m'ont dit, vous savez, la cour d'appel, comme vous avez une protection juridique, les honoraires sont pas très hauts. Et est-ce que vous êtes prête à être confrontée à votre agresseur et ça coûte très cher. Ah ben, si j'ai pas d'argent, je travaillais pas puisque j'étais. J'avais une association bénévole, donc je n'étais pas payée. Donc, elle me dit, vous savez, c'est pas marrant une confrontation contre son agresseur. Puis, elle n'était pas très sympathique. Donc, du coup, elle m'a plutôt fait reculer plutôt qu'autre chose. Puis, j'en avais tellement marre de cette histoire que j'ai fini par déménager. Et puis, je suis partie. Mais j'en fais des cauchemars tous les jours. Mais je me dis pourquoi cette injustice. J'ai même écrit au ministre des Gardes des Sceaux à cette époque-là. J'ai écrit partout. Mais ça n'a rien fait. Et en plus, c'est moi qui ai été lésée parce que j'ai pris 3 ans de surveillance.
D'accord.
Voilà. C'est moi qui ai été punie.
Incroyable.
Oui, c'est incroyable.
Mais vous avez été punie en étant accusée de quoi ?
Ils ont
de
dit
mensonge.
Que. Étant donné, oui, parce que le syndic avait dit que les photos que j'avais envoyées, mais sans son visage, parce que c'était des photos de son sexe, C'était un mineur qui avait eu les photos.
Ah oui, c'est ça, vous m'avez bien raconté ça, oui.
Oui, donc je sais pas. Donc, ben voilà, ma vie, c'est tout le temps des injustices, tout le temps, répétées,
répétées. Ça s'est pas calmé depuis un moment, votre vie, là, un petit peu?
Ben là, j'ai déménagé du côté de du Retailloi, mais ben, je suis toute seule, puis ma dépression a repris le dessus, et malheureusement, ben, j'ai beaucoup de pathologies qui viennent se greffer à ma dépression, parce que maintenant, j'ai la vue qui baisse. Je suis très fatiguée et puis maintenant je ne fais plus de dossier non plus parce que c'est pareil, j'ai fait un dossier pour une petite cousine qui a eu plus de 700 000 euros. Je me suis pris plutôt un mot désagréable au lieu de me dire merci. Donc je me suis dit oui, aider les gens c'est bien, mais bon, il y en a qui savent pas dire merci, il y en a qui sont très mauvais. Donc je me suis dit, le problème, c'est ce qui m'ennuie le plus, c'est de ne plus voir mon fils. Car ça fait 22 ans que je l'ai pas vu.
Sûr.
Voilà. Et puis il me dit, en plus, mais t'es pas encore crevé. Alors ça fait mal. Alors que j'ai tout fait pour lui. Je lui ai payé l'école privée pour qu'il ait un métier, pour qu'il travaille et tout. Et non. Il a toujours été remonté par son père en disant, tu vois, ta mère, elle est folle, elle a encore fait une tentative de suicide, voilà.
Et le père est toujours en contact avec le fils, je suppose.
Oh, je suppose. Enfin, maintenant, mon fils, il a 32 ans. Donc...
Et vous n'avez jamais essayé de lui envoyer un mail?
Ah si, je lui ai envoyé plein de courriers, et des courriers gentils, en lui disant, je sais, ce n'est pas de ta faute, tu as été remonté par ton père et ta belle-mère,
oui.
Mais je lui ai dit, tu n'as pas eu ma version des faits, je sais que tu as manqué de câlins, tu as dû le ressentir, mais tu sais pas pourquoi. Donc tant que tu sauras pas pourquoi, ben, tu pourras pas comprendre. Et puis, bon maintenant tu as 32 ans, c'est sûr que je peux lui faire des câlins à 32 ans. Mais non, il veut rien savoir.
Vous savez où il habite, ce qu'il fait
Je sais où il habite. Par contre, au niveau travail, il a dû me raconter des bêtises.
C'est-à-dire?
Ben, il travaillait, il était ingénieur pour les autoroutes. Et j'ai téléphoné à l'entreprise où il travaillait. Et bizarrement, ils m'ont dit, il est parti depuis un an. Et aussitôt, j'ai reçu un SMS de sa part, de mon fils,
oui.
En me disant, tu n'appelles plus mon employeur. Et surtout, tu ne me réponds pas à mon message. Je ne veux surtout plus t'entendre ni voir ton écriture.
Oh là là. Ah oui, vous avez vraiment...
Donc, je suppose, parce que le message, je l'ai reçu aussitôt le coup de fil. Donc, l'entreprise en question n'a pas eu le temps de le joindre, et lui, il n'a pas eu le temps de m'envoyer le SMS. Mmh. Ça, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, on m'a menti. Mais moi, ce que je voudrais bien, c'est que le concierge, qu'il soit puni.
Oui, mais c'est fini maintenant, à mon avis. Hein.
Pourquoi? Ah bon?
Bah, vous ne pensez pas que c'est... C'est calé, cette histoire, que c'est...
Ben, je sais pas.
Parce que j'ai l'impression quand même que ça fait un moment, l'histoire avec ce gendarme.
Ben oui, mais enfin, je trouve qu'avec autant de pièces, parce qu'ils disent bien insuffisance de pièces, ben, il faut combien de SMS? 2420 SMS, ça fait déjà beaucoup quand même. Des témoignages, des courriers que je lui faisais en lui disant « Arrêtez !» Et, je sais pas, c'est en plus les photos, des photos morbides, et puis en plus des vidéos qui faisaient des trucs chez lui. Voilà, c'était. Bon. Puis des cadeaux que j'avais, enfin, ça s'appelle en droit des récompenses que j'avais eues. Je me dis, c'est pas possible. Ah ben non.
Oui, les fameux cadeaux, oui. Oui.
Ouais.
Il est où maintenant, cet homme-là?
Et, apparemment, il est... Ah, je pense qu'il est toujours concierge.
Il est toujours concierge?
Ah oui, le syndic l'a bien protégé.
Bon, maintenant, est-ce que vous sentez de mettre ça derrière vous, en fait? Est-ce que ça vous est possible de pouvoir...
Bah, très difficile, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai subi deux autres viols, enfin bon,
oh là
pas
là,
à ce point-là. Mais bon,
mais où, quand...
j'ai fait rage des deux autres viols, mais surtout, c'est mon enfance. Et ça, c'est pareil. tous les jours, quand je me réveille, je suis en train de tuer mon père. Alors ça aussi, c'est horrible. Parce que mon père a vécu jusqu'à mes 14 ans. Alors, on en a vu. Il couchait avec moi tous les jours. Il fallait faire ce qu'il demandait. Interdiction de manger le soir. Je n'ai jamais mangé le soir. Il n'a jamais été habillé. Je ne l'ai jamais vu habillé. Alors, vous savez, des choses comme ça...
Bien sûr. Et votre mère, dans tout ça, elle disait quoi?
Ma mère, j'ai trouvé qu'elle était... Bon, je sais bien, c'est milieu agricole, mais enfin, elle aurait pu dire, parce que moi, elle m'a dit, quand je lui ai dit, elle m'a dit, oh, surtout ne dis rien, il va faire de la prison.
Oh, voilà.
Enfin, j'ai trouvé ça un peu léger, quand même.
Vous êtes partie de chez vous à quel âge, Bernadette?
Dès que j'ai travaillé, à 20 ans.
Oui. Et il a continué tout ça jusqu'à vos
20
ans?
Non, parce qu'il est décédé quand j'avais 14 ans.
D'accord.
Heureusement, parce que j'avais voulu le tuer. Puis, bon, je me suis dit, je vais peut-être faire de la prison. Donc,
Mais aujourd'hui, vous avez des amis un peu? Vous avez un peu une vie sociale, non?
Depuis que je ne fais plus mes dossiers de clients, on n'a plus besoin de moi, donc c'est fini. Puis maintenant, je n'ai plus la force de me lever. Me laver, c'est pendant une heure, je tourne en me disant il faut que j'aille me laver, il faut que je déjeune. Puis bon, déjà, j'ai quand même des problèmes financiers. Et puis je vois bien que maintenant, je perds la vue avec mes médicaments parce que je prends tellement de médocs, beaucoup de benzo et tout, des antidépresseurs. Je prends quand même 3 Valium, 2 Noctamide le soir pour dormir.
Et ça, vous ne pouvez pas réduire ça? Vous n'avez pas essayé de réduire
tout
ça? Mais
on peut réduire que par moitié d'un comprimé ou un comprimé.
Ah oui. Bon, écoutez, c'est pas très gai, hein, tout ça, ma pauvre.
Non.
Je vous souhaite plein de courage, hein, Bernadette. Ça
oui,
va...
merci.
Vous êtes suivie toujours, là, quand même?
Oui.
Peut-être qu'il
mais
faut que...
Mais les médicaments, c'est pas la meilleure solution pour les dépressions.
Mais non. Donc peut-être demander à votre psychiatre.
C'est le MDR qui est bien. Mais le MDR, c'est payant. On ne peut pas se faire rembourser.
Oui, non, c'est pas
remboursé. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils détruisent la santé.
Oui. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Malheureusement, c'est
merci,
la fin de l'émission,
okay.
Bernadette. Ouais. Vous êtes gentille. En plus, vous nous suivez depuis longtemps. Vous nous envoyez souvent des jolies photos, des montages. Vous êtes adorable. Donc, vous savez que nous, on pense à vous ici, d'accord?
D'accord. Hein? Merci, Olivier.
On vous embrasse bien fort. Au revoir, Bernadette.
Bon, au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. On se retrouve demain, à partir de 23h, bien évidemment. Ce sera jeudi, notre dernière soirée. Ensuite, vous retrouverez l'excellent Yann Moix pendant tout le week-end. Votre libre antenne, 7 jours sur 7, de 23h à 1h du matin sur Europe 1. Votre émission. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Dormez bien, respirez bien, faites de beaux rêves. Salut.